Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau podcast signé Touchdown Actu, 458e mouture consacrée à la draft, un nouveau numéro draft consacré donc à des positions spécifiques. Et avant de prendre la direction du podium de la draft NFL en avril prochain, patientons quelque peu dans la salle de réception avec les meilleurs amis des quarterbacks aujourd'hui à l'honneur, qui sera notre go-to guy préféré, qui aura un destin glorieux et tout tracé, qui aura des nerfs d'acier en un contre un. Toutes ces réponses qu'on abordera avec notre expert college football, Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, les experts des tracés, c'est exactement ça aujourd'hui. Ouais.
Tout à fait, ouais. Va y avoir du boulot, un petit peu comme la semaine dernière, notamment avec les... On avait commencé un peu gentiment avec les quarterbacks dont on... qui avait beaucoup de points d'interrogation. Là, on est encore dans des positions extrêmement fournies, denses vraiment en talent. Et il a fallu, chercher à faire quelques cuts parce qu'on a retenu là encore à peu près un peu moins d'une dizaine de noms. Mais on aurait pu facilement monter à 15 si on s'était écouté, mon petit Jean-Michel.
Oui, exactement. Une classe très, très riche. Ouais, très intéressant.
Ouais, alors juste pour préciser, pas trop de changements au niveau de l'organisation. On va juste aborder, donc pour commencer, peut-être notre receveur qui crève un peu l'écran, en tout cas pour lequel on a un petit faible, ton T. Higgins version 2022, j'ai presque envie de dire.
Oui, c'est ça, exactement.
Si on se rappelle de ta passion. Il a marqué un touchdown d'ailleurs le week-end dernier.
Je ne dis pas toujours des bêtises. Ouais,
l'effet Higgins va commencer à se mettre en évidence aux côtés de Jamar Chase, je n'en doutais pas. Mais en tout cas, voilà, plus sérieusement, voilà, qui retient plus particulièrement notre attention. Et puis, on s'intéressera bien entendu aux différentes catégories, le tier 1 et le tier 2 notamment, avant d'aborder les sleepers et quelques cas particuliers, parce qu'il y a en effet des receveurs qui soulèvent quelques zones d'inquiétude, enfin, en tout cas, des énigmes. Pour reprendre un terme qu'on avait utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, les principales énigmes au niveau de cette position-là. On part tout de suite, Jean-Mi, pour nos chouchous du moment. C'est parti pour la première partie.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Alors, qui sont du coup nos receveurs un petit peu fétiches, si je peux parler ainsi ? Un petit peu comme la semaine dernière, on va avoir pas mal de prospects intéressants qui sortent de la conférence Big Ten. Et c'est notamment un joueur de cette conférence qui a attiré tout particulièrement ton attention, Jean-Mi, à savoir David Bell, receveur des Purdue Boilermakers. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Alors, comme tu l'as un petit peu teasé en introduction, c'est une classe qui est très, très riche, très, très forte. mais que je trouve relativement homogène à son sommet. Donc, c'est quand même assez difficile de déterminer, oui, lui, c'est vraiment le premier, le meilleur, comme on a déjà eu, mettons, l'année dernière, Gian Marchez, où tout le monde savait que c'était lui le meilleur. Cette année, c'est un peu plus délicat. Donc, moi, j'ai choisi David Bell. Pourquoi ? Déjà, la première chose, c'est que je le trouve très complet dans toutes les catégories, dans tout ce que doit faire un receveur. C'est-à-dire, il a de la taille. Il court des bonnes routes, de bons tracés. Il arrive à créer de la séparation parce qu'il a des doubles moves. Il arrive à remporter des catchs contestés parce qu'il est suffisamment costaud. Parce que surtout, il a des mains très fiables. Il relâche très peu de ballons. Et en plus, il joue très, très bien de son corps. Au niveau vitesse, il a une vitesse suffisante. Alors, ce n'est pas du tout le plus rapide de cette QV, mais il a suffisamment de vitesse. Donc, vraiment, pour moi, David Bell, c'est quelque part un petit peu le plus complet. Alors, je ne vais pas dire celui qui me donne le plus d'assurance. Celui-là, on en parlera tout à l'heure dans le tiers 1. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, a vraiment la panoplie totale pour moi. Et à minima, il sera, je pense, dès sa saison rookie, un très, très bon receveur numéro 2.
Oui, je suis pas loin de te rejoindre. En effet, j'avoue que si on cherche un profil assez complet, que ce soit d'un point de vue physique ou polyvalence, David Bell, ça peut être une excellente solution. Et c'est peut-être même pour ça qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu de mal à le situer, on va dire, dans le corps des principaux receveurs pressentis pour la prochaine draft. C'est-à-dire que ça peut très bien être un premier tour parce que justement, il sait faire énormément de choses et il a le physique pour y contribuer. Et d'un autre côté, il a peut-être ce léger déficit, on va dire, comment je pourrais dire ça, de vitesse et de qualité athlétique par rapport à d'autres, j'entends. Voilà, c'est pas celui, en effet, où on va se dire waouh, et peut-être que son combine va changer beaucoup de choses dans ce domaine-là par rapport à d'autres, mais c'est sûr que c'est pas avec ça qu'il se démarque. Mais voilà, ça resterait en effet un excellent receveur de possession. On t'en parlait tout à l'heure, des excellents appuis, si je fais la liaison, c'est encore mieux. Et voilà, et c'est un joueur qui n'hésite pas à contribuer également sur le jeu à la course. Donc voilà, très franchement, ça peut être un bon guerrier dans une attaque. Et en effet, un joueur qui peut être titulaire assez rapidement. Donc pourquoi pas, à surveiller. En effet, ça fait partie des principaux receveurs. Donc il va falloir réussir à évaluer clairement le niveau au printemps prochain.
Oui, voilà, parce qu'il a tout. C'est ça qui me plaît chez lui. Il y a vraiment tout. Et puis, c'est pas tout depuis cette saison 2021. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Dès sa saison freshman, il a montré. L'année dernière, il a montré beaucoup de choses. Et cette année, il confirme. Donc,
Oui, c'est ça. C'est un des receveurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que sur les receveurs qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un des receveurs qui a engrangé le plus de premières tentatives au cours de la saison 2021. Alors, je n'ai pas donné ces stats rapidement, mais c'est 93 catchs pour 1275 yards et 6 touchdowns. Donc voilà, et très franchement, on va le dire honnêtement, voilà, même si la tech de Purdue a bien tourné cette année, c'était quand même le principal fer de lance. C'est celui qui a notamment contribué à la grosse saison de Purdue. On se rappelle de son match notamment à Iowa, hein, le gros upset réalisé face à des Hawkeyes qui étaient en pleine bourre à ce moment-là. Il a été un acteur extrêmement décisif, notamment parce qu'il arrivait à se placer où il fallait d'un point de vue tracé, à être hyper menaçant dans le domaine vertical. Donc voilà, c'est des éléments qui jouent en la faveur de David Bell dans le titre de cette draft. Alors moi, mon joueur fétiche, c'est un joueur qui joue dans la conférence SEC, où là encore, il y a pas mal de gros clients d'un point de vue receveur. J'ai voulu mettre à l'honneur Treylon Burks, receveur d'Arkansas, parce que tout simplement, c'est sans doute, tu me diras ce que tu en penses, Jean-Mi, mais un des profils les plus atypiques dans cette classe de receveurs. Très sincèrement, c'est un gabarit vraiment, c'est un joueur tanké, on va le dire tout de suite. Hein. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, il a un bon 1m92, je crois, de taille. 225 kilos, je ne sais pas, mais ça doit faire au moins 100 kilos de tête. Donc, c'est quand même un beau bébé quand il est en déplacement. Et malgré tout, on a vu ces dernières saisons du côté d'Arkansas qu'il arrivait à avoir une excellente mobilité, justement. C'est un joueur qui a, assez étonnamment d'ailleurs, dans le système offensif d'Arkansas, qui a énormément été utilisé dans le slot. Ça a pu le desservir parce que justement, je pense que beaucoup de scouts auraient aimé un petit peu saliver de voir ce profil hyper physique se confronter un peu plus en un contre un sur des duels en presse, etc. C'est vrai qu'il a beaucoup plus joué sur la prise d'espace et notamment cette capacité à être hyper dangereux après la réception et en sortie de backfield. Et c'est ces éléments-là qui font que Parce que je me dis que c'est peut-être pas le domaine physique ou en tout cas les catchs contestés, même si c'est clairement pas là encore le receveur qui s'est le plus distingué dans cet exercice. C'est peut-être pas là où je le vois le plus en difficulté dans son apprentissage de la NFL. Donc, il y a ce point d'interrogation-là forcément à prendre en compte. Mais quand on voit tout ce qu'il est capable de faire à côté, toute proportion gardée, j'avais déjà pris cet exemple-là, notamment dans le podcast que je fais avec Morgan sur le podcast Ball, c'est pas aussi athlétique que Julio Jones, mais ça sait faire quasiment autant de choses. Et c'est sans doute pour ça que ce sera sans doute pas un top 10, mais on sera quand même pas loin du top 20, selon moi, Jean-Mi.
Ah oui, oui, oui. Il donne beaucoup d'assurance pour être un vrai receveur numéro 1 à NFL. Déjà, comme tu as dit, il a le gabarit, il est vraiment très costaud. Et ça se voit même quand il faut bloquer. Par exemple, quand il y a une course, il bloque très bien. Et puis, il casse les plaquages aussi. Et puis, ce qui est étonnant aussi chez lui, c'est quand tu vois son gabarit, et c'est sa pointe de vitesse. Je veux dire, c'est pas le plus rapide. N'imaginez pas Jalen Waddle, évidemment. Comme tu as dit, le gars, effectivement, c'est ce qu'il fait. Il fait 1m90, plus de 100 kilos. Mais par contre, il a vraiment une belle pointe de vitesse. Tu t'attends pas à ça, quoi. Donc, il est très capable en accélération. Et il a aussi des mains sûres. Voilà. Ouais. Quand il attrape le ballon, il attrape. Et puis, même à une main.
Juste, j'ai pas donné ses stats. Excuse-moi, Jean-Mi. C'est 65 réceptions pour 1100 yards et 11 touchdowns cette année. Après, juste pour l'argument des mains, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est là aussi, c'est dans le domaine, c'est dans la case, il faut rassurer parce qu'en effet, vu qu'il a beaucoup été utilisé avant tout sur des tracés intermédiaires, c'est vrai qu'il y a cette incertitude. Mais en l'occurrence, voilà, sur le pourcentage notamment de réception et de drop, c'est un des plus fiables du plateau dans ceux qu'on va aborder aujourd'hui, très clairement.
Ah oui, c'est ça. De toute façon, il a des mains, c'est Hulk, quoi. Je veux dire, j'ai regardé, ils sont obligés d'y commander des gants spéciaux. Il prend des gants 5XL. Il a des mains immenses. Et donc, il t'attrape le ballon comme si c'était une balle de tennis, même à une main. On l'a vu plusieurs fois faire des petites extensions. Hop, il attrape le ballon à une main, il le ramène vers son corps. Et puis, bon, quand il a contre son corps, c'est terminé. Tu le déloges pas, quoi. Il est tellement costaud. Ah ouais, il est impressionnant. Quelque part, moi, il me fait penser un petit peu à Demaryius Thomas, si on se rappelle. C'était il n'y a pas si longtemps qu'il jouait à NFL. Ce type de joueur qui était costaud, mais qui avait une belle pointe de vitesse. Et Treylon Burks, c'est ça.
Oui, c'est des bons exemples, a priori, qu'on a pris. On lui cède d'avoir la même carrière, mais en tout cas, voilà, il y a encore une fois quelques zones d'ombre, bien entendu, mais franchement, là aussi, on est vraiment dans du profil extrêmement complet. Et ouais, là, d'un point de vue physique, en tout cas, c'est peut-être l'un des plus intimidants, si ce n'est le plus intimidant du plateau. Donc, ce sera à surveiller dans cette NFL moderne. Vas-y, Jean-Luc.
Et puis, il joue en conférence SEC. Donc, toutes les semaines, il joue de sacrées défenses. On se rappelle notamment de son match face à Alabama. Il avait été extraordinaire. Je veux dire, Alabama, ils ont quand même une belle secondaire. Il y a quand même de bons joueurs. Et il avait marqué 2 touchdowns. Il avait fait jusqu'à 180 yards, un truc comme ça. Enfin, voilà, toutes les semaines, il produit contre des grosses défenses. Il donne de belles assurances, lui aussi. Donc, pour moi, il vaut largement un milieu de premier tour.
Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur nos deux chouchous du moment, si on peut les appeler ainsi. On passe à présent au tier 1. Tier 1 ou tier 1 bis, hein, en l'occurrence, hein, parce que vous aurez compris qu'on est quand même relativement hypé par les deux profils qu'on a abordés tout à l'heure. En tout cas, on va traiter deux joueurs qui sont pas mal mis en avant, qui ont été en tout cas pas mal mis en avant au cours de cette saison 2021 et qui sont souvent évoqués, notamment dans les top 15, les top 20 de la draft, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que le statut de numéro 1 vraiment au niveau des corps de receveur n'est pas forcément hyper accentué, mais ça n'empêchera pas d'avoir beaucoup de qualité, notamment au premier tour. On va commencer, si tu le veux bien, par les deux receveurs d'Ohio State et peut-être notamment par Chris Olave, receveur donc des Buckeyes, dont je vais essayer de retrouver tout de suite les statistiques au cours de la saison 2021. Je les ai, donc c'est 65 réceptions pour 936 yards et 13 touchdowns. Joueur extrêmement prolifique, notamment parce qu'on a affaire à un excellent technicien, Jean-Michel.
C'est ça, exactement. Toute sa valeur, elle est là. Et c'est la qualité en tracé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait se rendre là où il le faut, là où le quarterback va le trouver. Ça veut dire aussi qu'il sait être patient. C'est-à-dire qu'il a une bonne pointe de vitesse, mais ce n'est pas un receveur qui va forcément se précipiter en faisant un tracé go, tout droit, hop, je sprint à fond. Non, il est capable de partir tout tranquillement, en changement d'appui, une petite feinte à gauche, une petite feinte à droite, et hop, quand il faut accélérer, il accélère. Et là, c'est terminé, tu ne le rattrapes plus. Donc, il a vraiment toute la qualité pour faire tous les tracés en NFL, que ce soit vers l'extérieur, que ce soit en profondeur, que ce soit à l'intérieur. Il sait vraiment tout faire et de façon très précise. C'est notre ami Victor qui a une bonne image, moi, je trouve, pour une comparaison NFL, c'est Keenan Allen. C'est-à-dire, voilà, un joueur qui ne va pas gagner par son gabarit, qui ne va pas gagner par une pointe de vitesse supersonique, mais qui sait se rendre exactement là où son quarterback va pouvoir le trouver. Chris Olave, c'est vraiment un démon sur toute la largeur et toute la longueur du terrain. Il sait se mettre là où il le faut. C'est peut-être même lui le receveur numéro un, même s'il manque un peu de gabarit, même si tu as peut-être des fois du mal à trouver une qualité vraiment élite, mais alors il a toutes les autres. Toutes les autres, il les a. Et un très, très bon niveau.
Oui, c'est ça. C'est peut-être, mais je vais pas rajouter grand-chose de plus que ce que tu as déjà dit. Je suis globalement d'accord, en effet, notamment avec la comparaison avec Keenan Allen. Voilà, c'est là, on est sur du receveur de possession avant tout. Alors, on va le dire très clairement, en fait, c'est peut-être ce qui va jouer contre lui dans le processus de sélection, puisqu'on sait que c'est pas forcément ce type de receveur-là ces dernières années qui partent avant. Même un joueur comme Jerry Jeudy, qui était encore plus athlétique que lui, je pense, à sa sortie d'Alabama, n'a pas été le numéro 1 de sa QV à son poste. Donc voilà, dans une classe où il y a beaucoup de speedsters, je pense qu'il sera un peu boudé par des principales équipes. Après, ce sera tout bénef pour lui parce qu'il va sûrement tomber dans des équipes un peu plus calibrées et à qui il va faire énormément de bien. Et voilà, pour le reste, oui, c'est sûr que peut-être que physiquement, c'est pas celui qui casse le plus de plaquage. En termes de catch contesté, j'étais assez étonné parce que c'est pas un ratio si déshonorant que ça malgré tout. Donc voilà, il peut avoir quand même un bon sens du timing et ça rejoint ses capacités, notamment en termes de tracé. C'est un joueur intelligent avant tout, même si c'est clairement pas le plus flashy auquel on va avoir affaire au cours de cette QB.
Oui.
Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur son binôme du côté de Columbus ?
Ben justement, tu parlais de flashy, donc on va parler de celui-là qui est un petit peu plus flashy, ouais.
Ouais, Garrett Wilson, donc 70 réceptions en 2021 pour 1058 yards et 12 touchdowns, pardon, plus de production en termes de yards amassés, mais moins de touchdowns, donc moins clutch, entre guillemets, si je peux prendre cette expression-là. Après, pour le coup, là aussi, c'est vraiment du joueur extrêmement explosif. Et là, pour le coup, en termes de pointe de vitesse, Garrett Wilson se place là, quoi.
Ah oui, ben lui, c'est le feu, puisque bon, il y a un trio de receveurs à Ohio State, il joue sur le groupe de funk Earth, Wind & Fire, et donc lui, c'est le fire. C'est vraiment quelqu'un d'explosif qui fait beaucoup de séparation avec sa vitesse de départ, mais également avec sa vitesse d'accélération. C'est-à-dire qu'il va faire un petit tracé slant ou même une passe écran, puis une fois qu'il a le ballon dans les mains, pouf, 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 ça y est, il est parti, et c'est très, très difficile de l'arrêter. Après, comme son compère Chris Olave, il est très bon aussi en tracé. Je veux dire, techniquement, il est quand même très, très abouti. Ce n'est pas juste un speedster qui est capable de sprinter tout droit. Non. Et au niveau des tracés, il est précis. Au niveau de la technique, du jeu de corps, il est également abouti. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Moi, quelque part, il me fait un petit peu penser à Antonio Brand. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'attaquer la profondeur avec l'explosivité, mais quelqu'un qui t'attaque aussi l'intérieur du terrain. Et ne serait-ce que ses moves, quand il a le ballon dans les mains à l'intérieur du terrain, il esquive très bien les défenseurs, et puis alors, c'est très difficile de l'arrêter.
Ouais, c'est ça, une excellente réactivité. Et ouais, je pense que c'est un joueur, notamment sur les tracés un peu comeback, je pense que ça peut être vraiment encore une fois, sur le profil des cornerbacks extrêmement menaçants en un contre un. Je pense qu'on a vu à plusieurs reprises, même si les corners de la Big Ten ne sont pas les plus réputés. On sait que c'est plus axé sur du jeu au sol dans la Big Ten, mais il a quand même croisé 2-3 profils assez physiques. Et on a vu en effet qu'il avait cette capacité de réactivité. Je pense au match contre Oregon, par exemple, où Ohio State a beaucoup souffert et ça a été un des principaux artisans, on va dire, du comeback offensif d'Ohio State, pour y croire, même s'il y avait eu des défaites à l'arrivée. Et oui, c'est faire plein de choses. On l'a vu en plus faire des catchs absolument dingues. Alors, je ne sais plus si c'était contre... C'était contre Clemson, le catch qu'il fait quasiment dans les airs, où les quatre fers en l'air, où il arrive quand même à catcher le ballon.
Ah oui, oui, oui.
Il est carrément à la bascule, il arrive quand même à compléter le catch. Donc oui, c'est un joueur hyper. Je sais pas si c'est le bon exemple, parce qu'encore une fois, je veux pas. Le but du jeu, c'est pas qu'il y ait de l'enflammade, surtout qu'on parle pas forcément que de joueurs qui sont sûrs de s'inscrire en NFL. Il n'y a pas que des seniors en l'occurrence. Mais ouais, il y a un petit côté Odell Beckham quand même avec Garrett Wilson. C'est-à-dire ce côté vraiment hyper spectaculaire qu'on peut retrouver, que ce soit d'un point de vue vitesse, d'un point de vue catch sorti de nulle part. On peut avoir cette aptitude-là très clairement avec le profil d'Ohio State. Et très clairement, il fait partie des candidats justement de par son profil hyper speedster, hyper athlétique, qui peut être numéro 1 de cette QV sans trop sourciller, quoi.
Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. Parce que tu vois, quand tu vois des profils style Henry Ruggs qui partent au premier tour, je dis Ruggs, il est parti au premier tour parce qu'il est extrêmement rapide. Alors, je ne dis pas qu'il avait que ça, il était quand même formé à Alabama, etc. Mais il était quand même beaucoup moins accompli qu'un Garrett Wilson, qui lui aussi a énormément de vitesse, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus complet, beaucoup plus abouti techniquement. Et pour la NFL, il est déjà beaucoup plus prêt. Donc, oui, il vaut largement un premier tour. Oui.
On passe justement à un profil assez similaire d'un point de vue gabarit, en tout cas j'entends, puisqu'on va aborder maintenant les deux receveurs d'Alabama et dans ce tiers 1 bis, on a retenu notamment Jameson Williams, ancien coéquipier de Garrett Wilson et de Chris Olave du côté d'Ohio State. Donc la passerelle se fait de ce biais-là. Il a quitté une superbe escouade de receveurs du côté de Columbus pour rejoindre une superbe escouade de receveurs du côté de Tuscaloosa. Donc Jameson Williams du côté d'Alabama, c'est 61 réceptions pour 1259 yards et 13 touchdowns. Grosse productivité, grosse menace verticale et tout simplement là aussi joueur qu'il faut réussir à attraper.
Ah oui, voilà. Et puis ouais, ouais, bon courage. Bon courage pour le rattraper, ouais, effectivement. Jameson Williams, c'est vraiment une des sensations de la saison. C'est incroyable la saison qu'il fait. Alors après, justement, c'est peut-être une de ses limites, c'est que c'est une saison, c'est cette saison-là. Elle est fantastique, mais c'est vrai qu'avant, on l'a très peu vu. Il était à Ohio State, mais il était vraiment barré par les deux autres. Et puisqu'on vient de parler des deux autres, justement, Olave et Wilson. Une autre limite de Jameson Williams, c'est qu'il est quand même beaucoup moins accompli techniquement et il fait pour l'instant beaucoup moins de choses. Alors après, il y a un énorme potentiel qu'on pourra développer, mais pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est vraiment une menace profonde. Alors oui, attention, pour l'arrêter, ça va être vraiment très difficile, y compris en NFL, y compris avec des cornerbacks qui sont plus rapides, plus puissants, etc. Mais voilà, il est tellement explosif, il attaque la profondeur, je veux dire, il a été flashé à 36 km/h. J'ai regardé un petit peu les temps NFL en 2020, ça leur a mis troisième temps NFL. Voilà, c'est quelqu'un qui est hyper rapide sur sa première année, ne serait-ce que pour attaquer la profondeur ou pour même faire des jeux en équipe spéciale. Déjà, il vaut un choix du top 50 sans problème parce que c'est quelqu'un qui peut te changer le momentum d'un match. Voilà, il va te faire un gros jeu d'un coup et boum, ça y est, c'est parti.
Oui, tu as tout dit. Il faut peut-être en effet étoffer un petit peu ce profil-là, peut-être un petit excès d'engagement. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec son targeting justement du côté d'Auburn. Mais c'est un joueur qui peut être extrêmement précieux en attaque et surtout sur l'équipe spéciale. On a vu qu'il est extrêmement dangereux. Là, pour le coup, on l'avait déjà vu du côté d'Ohio State, on l'a vu encore plus du côté de Bama. Donc voilà, ça peut être un joueur, comme tu le disais, qui peut changer un momentum sur pas mal de secteurs de jeu. Et là encore, ça peut quand même être assez difficile pour des équipes NFL de se dire qu'on va passer sur un talent aussi explosif et aussi capable de changer vraiment la dimension d'un match. Donc, profil très clairement à surveiller qu'on pouvait difficilement mettre hors de ce tier 1, en l'occurrence, dans ce podcast consacré. Ben, on passe tout de suite au top 2 et on va rester du côté d'Alabama.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Puisqu'on va parler d'un receveur canadien, Jean-Michel, son coéquipier au sein du Crimson Tide, John Mechie, The Third, dont j'essaie de retrouver les stats tout de suite en 2021. John Mechie the third, donc c'était 90 réceptions pour 1045 yards et 7 touchdowns. Alors, on a comparé un petit peu tout à l'heure Olave et Wilson du côté d'Ohio State. Là, on est aussi un petit peu sur le côté profondeur et profil vraiment axé réception avant tout. John Mechie, on l'a quand même vu, il y a eu quelques duels assez sympas. Je parlais du match contre Auburn. Il y a eu un très beau duel contre Roger McCreary, un des corners qu'on attendait de voir. Main sûre, joueur qui est souvent utilisé notamment dans le slot, mais qui est globalement à l'aise partout de ce qu'on en voit.
Mais c'est ça, parce que quand tu le vois comme ça de prime abord, que ce soit par rapport à son gabarit et que ce soit par rapport à sa vitesse, tu te dis, OK, c'est un receveur intéressant, quelqu'un qui va attaquer la profondeur, qui va mettre un peu d'explosivité, et déjà, c'est très, très bien. Mais en fait, c'est un receveur numéro un. C'est un receveur numéro un. Parce que quand tu le vois, comme tu disais, avec ses mains, moi, c'est surtout dans le trafic qui m'impressionne. Comment il arrive à attraper les ballons dans le trafic, comment il arrive à résister au choc, comment il arrive à résister au plaquage. Alors, il manque un peu de taille, mais quelque part, moi, il me fait penser un petit peu à Terry McLaurin de Washington. C'est-à-dire ce type de receveur qui n'est pas très grand, qui a beaucoup de vitesse, mais qui, en fait, est quand même bien bâti, bien costaud, bien solide sur ses appuis. C'est très, très difficile de le stopper. John Mechie, il sait tout faire, moi, je trouve. Et c'est vraiment, c'est un receveur numéro un, tout simplement. Même s'il n'a pas le gabarit d'un Burks, d'un Bell, enfin, de ce qu'on attend généralement d'un receveur numéro un qui doit faire au moins 1m90. Ce n'est pas son cas, mais c'est un vrai receveur numéro un. Que ce soit à l'intérieur du terrain, que ce soit à l'extérieur, que ce soit après passer écran, il va gagner des yards, que ce soit pour attaquer la profondeur, il fait tout. Moi, il m'impressionne beaucoup, John Mechie. C'est vrai qu'on l'avait vu l'année dernière, déjà, après la blessure de Jalen Waddell, il avait pris le relais. Il était plus dans un truc de menace profonde. Mais cette année, on voit qu'il est très, très complet. Très complet. C'est vraiment un très, très bon receveur. Sacré client.
Ouais, tout à fait. Ouais. Là aussi, je ne vais pas développer plus que ça. Il y a quelques petits points d'interrogation sur, par rapport à d'autres. Là encore, une fois, ce n'est pas dire que c'est son point faible absolument, mais si on compare à d'autres, peut-être la fiabilité des mains, c'est un de ceux qui a le meilleur pourcentage de catch réussi, mais où on voit qu'il y a peut-être plus de pourcentage de drop. Après, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a les mains qui glissent systématiquement, surtout dans les moments chauds. On l'a vu sur plusieurs grosses confrontations de la conférence SEC cette année. Oui, c'est peut-être le léger petit bémol, mais encore une fois, sur un joueur qu'on peut globalement utiliser partout et qui là encore présente un profil assez complet. Voilà, les mêmes arguments pour Chris Olave tout à l'heure. Ce sera peut-être pas le receveur numéro un de cette classe. Faut voir concrètement si ça peut être un premier tour. Je vois pas ce qui peut s'y opposer, mais encore une fois, vu qu'on est sur une classe profonde et qu'on va peut-être privilégier d'autres positions, ça peut jouer en sa défaveur. Mais le talent, il est présent et ça peut être un titulaire dès sa première année en NFL, très très clair. On va quitter donc Ohio State et Alabama, hein, même s'il y a d'excellents clients dans ces conférences-là. On a parlé d'Ohio State tout à l'heure, revenons en tout cas plutôt dans la Big Ten, pour aborder un profil extrêmement atypique là aussi du côté de Penn State, Jahan Dotson. Alors Jahan Dotson, que je retrouve les stats tout de suite, c'est 91 réceptions, 1182 yards et 12 touchdowns. Grosse production pour Jahan Dotson, surtout qu'il n'a pas vraiment été aidé par l'attaque de Penn State en 2021.
Non, ouais, c'est sûr que le point fort de Penn State, ce n'est pas vraiment le poste de quarterback, hein, et ça depuis des années. Et pourtant, il contribue. On l'avait déjà vu l'année dernière, il avait fait une saison fantastique avec 8 touchdowns. Il est quand même assez impressionnant. Et alors, puisqu'on parle de receveur avec de la vitesse, c'est presque une constante dans notre podcast, parce que c'est une constante dans cette QV. Il y a énormément de joueurs avec de la vitesse. Et lui, c'est incroyable. Il va très, très vite. Lui, c'est vraiment la vraie menace profonde. Il attaque et puis c'est fini. Tu le revois plus. C'est terminé, quoi. C'est un peu un T.Y. Hilton. Il sprint et puis il a des bonnes mains en plus. Lui, il a des mains très sûres. Je crois qu'il a très, très peu de drop. Et donc, voilà, il attaque la profondeur et puis c'est terminé. Tu le revois plus. Après, vu qu'il a un gabarit quelque part un petit peu similaire à John Mechie, moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je le trouve un petit peu moins complet que Mechie. Voilà. Je pense que Mechie peut faire plus de choses. Je pense que Garrett Wilson peut faire plus de choses pour l'instant. Mais Jahan Dotson, c'est quand même lui aussi une sacrée menace. Il a beaucoup de talent.
C'est un peu la même chose que Treylon Burke. C'est-à-dire que malheureusement, les attaques n'étaient pas forcément sur le même niveau. Mais tu te dis que tu peux en voir plus. Mais tu n'es clairement pas rassuré par rapport à d'autres parce que tu ne l'as pas vu concrètement. Donc voilà, il y a les outils pour Bon, se dire que Jahan Dotson à l'échelon supérieur peut être extrêmement intéressant de par ce que tu évoquais, notamment cette capacité de vitesse, cette capacité à être vraiment une bonne soupape de sécurité quand il y en a besoin pour faire avancer les chaînes. Mais oui, c'est vrai qu'après, il y a peut-être cette variété qui manque. C'est pas celui qu'on a le plus vu en un contre un. Après, il a une bonne capacité de tracer en l'occurrence. C'est pas le meilleur, mais c'est clairement pas le pire. Et voilà, il y a peut-être aussi cette capacité là encore sur des phases de duel, notamment se poser la question de savoir si Jahan Dotson peut être au rendez-vous. Ça déterminera juste éventuellement son seuil, on va dire, sa marge de progression. Mais après, on sait qu'on va avoir un profil extrêmement complet et sur lequel on va pouvoir s'appuyer, notamment pour être hyper décisif, comme il a pu l'être du côté de Penn State, où parfois on avait bien, bien du mal à avancer. Et comme par hasard, le déclic venait du numéro 5. Donc voilà, profil à surveiller là encore. Premier, deuxième tour en fonction de ce qui va se passer. Mais belle marge de progression éventuellement pour le prospect des Nittany Lions. On termine ce tiers 2, Jean-Michel, avec notamment un joueur de USC, Drake London, dont je vais retrouver les stats, même si sa saison a été écourtée pour cause de blessure. Vous allez voir que ça donne quand même un peu le tournis. 88 réceptions, 1084 yards pardon, et 7 touchdowns, donc tout ça en 8 matchs. Donc c'est pour situer un petit peu l'impact. On est un peu dans la même situation que Jahan Dotson quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une très bonne attaque de USC, je pense que c'est un euphémisme de le dire. Mais là, en tout cas, on a eu un phénomène avant et après la réception.
Oui, c'est ça. Alors lui, c'est vraiment un gabarit différent des deux dont on vient de parler. Je veux dire, autant Mechie et Dotson, il manque un petit peu de taille. Enfin, ils en ont suffisamment, je veux dire, mais ce n'est pas des joueurs très grands. Mais alors lui, il est immense. Il est très grand. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, enfin, ce n'est pas une surprise si on sait que c'était un très, très bon basketteur. Et il est d'ailleurs allé à USC parce qu'il comptait jouer dans les deux sports. Bon, il a un petit peu essayé au basket et puis ça n'a pas trop marché. Mais par contre, au football, attention, oh là là, il est très grand et il joue très bien de sa taille. C'est-à-dire qu'en plus, il a le jump. Et puis, quelque part, on voit aussi que c'est un basketteur dans ses déplacements. Il est très fluide comme ça. Et puis, il est quand même difficile à stopper. Alors, il n'a pas un gabarit aussi costaud qu'un Treylon Burks. Mais bon, je pense qu'à NFL, ils ont la recette pour qu'il prenne un petit peu de masse. Mais c'est quelqu'un qui résiste très bien. Puis surtout, voilà, dans les 50-50, il est très, très précieux. Il est grand, il a un très bon jump. Donc forcément, tu le mets en end zone, tu lances le ballon et puis il va l'attraper, quoi. C'est quelqu'un... Et en plus, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que tu vois, cette année, on l'a beaucoup vu à l'extérieur, même s'il y avait des soucis de quarterback à USC, mais on l'a beaucoup vu à l'extérieur. Mais par contre, ça fait 2 ans qu'il joue à USC et qu'il contribue, mais il était dans le slot. Il était dans le slot parce qu'il y avait Michael Pittman, parce qu'il y avait Amon-Ra St. Brown. Les deux ont été draftés une année après l'autre. Et puis du coup, il s'est retrouvé à l'extérieur et il a prouvé qui pouvait jouer aussi à l'extérieur. Et ça, c'est très précieux pour la NFL parce que tu vas drafter ce joueur. Évidemment, si tu le prends, mettons, en milieu de deuxième tour, tu comptes en faire un receveur numéro 1 ou numéro 2, donc à l'extérieur, un X ou un Z. Mais avec son expérience d'avoir joué dans le slot, tu sais que tu peux aussi compter sur lui pour le mettre dans le slot. Et c'est précieux, le slot. C'est vrai que des fois, on dénigre un petit peu les joueurs qui sont à l'intérieur, que ce soit au niveau des cornerbacks, au niveau des receveurs. Mais en fait, c'est très précieux. Pour faire avancer les chaînes, tu en as vraiment besoin. Et donc, Drake London, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me donne cette polyvalence. Il peut faire les deux.
Oui, oui, très clairement. Après, c'est vrai que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, cette efficacité, notamment sur les catchs contestés, ça vient aussi parce que ce n'est pas le profil le plus rassurant en termes de tracé. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, il y a eu cette capacité notamment à se démarquer dans le slot en 2020. 2021 était plus sur l'extérieur, mais on a eu quand même dans cette attaque un peu poussive de USC beaucoup de phases de jeu. Il était principalement utilisé sur de la screen et où en effet, après, on s'appuyait sur ses aptitudes physiques et sa vitesse, notamment pour faire la différence avec les blocs. Je ne sais pas pour résumer, ça a été plus équilibré que ça, mais en tout cas, on ne l'a peut-être pas autant vu. Notamment sur des jeux intermédiaires ou longs par rapport à d'autres, pour pouvoir juger justement de sa capacité à vraiment réussir à se démarquer. Après, une fois qu'il a le ballon en main, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un déménageur, il faut vraiment être capable de lui prendre le ballon. Voilà. Après, il faut toujours se méfier de ce genre de profil. Sur certains aspects, ça me fait aussi penser à J.D. Arcega-Whiteside. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas juste pour dire attention, ça va être un joueur sur lequel ça va être un possible bust. Voilà, on a encore vu son impact, tout comme Jahan Dotson du côté de Penn State. On a vu un énorme impact et une capacité justement à sublimer, alors que pourtant le casting autour de lui avait pas forcément de quoi le mettre suffisamment en valeur. Donc voilà, il y a énormément de capacités. Va falloir travailler éventuellement peut-être un peu plus cette aptitude, notamment en termes cette aptitude technique, tout simplement. J'ai presque envie de dire, c'est un joueur qui reste peut-être l'un des plus bruts du plateau qu'on a abordé, mais en tout cas, de ce qu'on en voit, voilà, s'il y a vraiment une marge de progression intéressante, ça peut être bingo pour l'équipe qui va réussir à mettre la main dessus.
Mais déjà, avec son mix de taille et puis son gabarit, c'est toujours une soupape de sécurité. Mmh. Voilà, quand tu es embêté en troisième tentative, que ce soit au milieu de terrain, ou alors quand tu veux déjà tenter quelque chose en end zone, eh ben voilà, tu as un receveur qui est grand, tu lances la balle en l'air, et puis tu sais que le 50-50, en fait, c'est plus du 60-40 avec lui. Donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça lui donne de la valeur. Après, ouais, il y aura du travail à développer, etc. Mais ne serait-ce que ça, déjà, voilà.
Oui, déjà, s'il arrive à concrétiser des actions en zone rouge, tu seras bien content de l'avoir au final pour marquer les points. Je te rejoins là-dessus. Bah écoute, on va terminer tout de suite avec notamment nos deux énigmes et notre sleeper.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Alors, les deux énigmes, Jean-Michel, on va peut-être commencer par le profil de Clemson, Justin Ross. C'est un nom dont vous entendez quand même un petit peu parler si vous êtes habitué au podcast ou au live draft. Joueur qui avait notamment crevé l'écran en 2019. Alors, j'essaie de me rappeler au niveau des
2018, années. 2018, ouais.
Ouais, même 2018, t'as raison. C'est pour ça que j'avais un doute. 2019, c'est l'année où LSU gagne. 2018, c'est vraiment l'année où il se révèle, notamment avec son impact sur la finale nationale remportée contre Alabama. 2019, il l'avait confirmé. Par contre, derrière, problème de santé important, problème physique, en l'occurrence, qui lui ont fait manquer toute la saison 2020. Il y a encore eu une saison 2021 écourtée pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça souligne quelques points d'interrogation en l'occurrence. A priori, sauf erreur de ma part, mon petit Jean-Mi, ça a été confirmé que post-opération, il se présenterait en NFL, puisqu'il y avait toujours cette possibilité éventuellement de revenir s'il avait la volonté de le faire. Il s'inscrira en NFL de ce qu'il a annoncé. Qu'est-ce que tu en penses de Justin Ross? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur son profil en tant que joueur et sur les inquiétudes qu'il soulève?
On le met dans les énigmes, mais ce n'est pas pour rien. Parce que d'un côté, c'est un profil extraordinaire, extraordinaire. Il est grand, il a des bonnes mains, il est intelligent. Il a de la vitesse, il a tout. Il avait fait une saison freshman, voilà, on en a parlé, c'était extraordinaire. Tu voyais ce joueur, mais tu disais, mais c'est pas possible. Lui, c'est un top 5 de la draft. Lui, c'est le type de receveur que tu prends dans le top 5. L'année suivante, il confirme, on se dit, oh là là, mais quel joueur fantastique. C'est extraordinaire. Et puis, le problème, c'est que voilà, cette blessure, comment il revient? Il revient cette année. Malheureusement, il revient dans une équipe de Clemson qui, pour la première année depuis presque 10 ans, fait une saison bidon. Même le quarterback est bidon. Donc, du coup, là, il fait quoi? Il fait 500 et quelques yards. Il fait 3 touchdowns. Mais
je vais retrouver ça juste pour… Vas-y, excuse-moi. Je pensais que je l'avais sous les yeux. Mais non, c'est bon, je l'ai. Pardon. Je l'ai. Justin Ross, cette année, c'est 46 réceptions, 514 yards, 3 touchdowns.
Ouais, voilà. Donc, du coup, tu peux te demander si c'est vraiment lui qui a du mal finalement à rebondir après cette blessure ou si c'est lié tout simplement à la saison de Clemson qui est beaucoup moins bonne que d'habitude. Mais il a un potentiel incroyable, incroyable, incroyable. C'est peut-être même le plus talentueux de tous les receveurs dont on a parlé aujourd'hui. Et pourtant, il y en a du talent. Hein. J'espère qu'on l'a bien marqué, que les auditeurs l'ont bien compris. C'est une superbe cuvée de receveurs. Mais Justin Ross, c'est un talent au-dessus de tous les autres. Mais voilà, il y a ces incertitudes-là. Donc forcément, pour lui, le combine, ça sera très important. Et pas tant au niveau du sprint, ni même au niveau des autres ateliers, mais au niveau du médical, au niveau des interviews aussi, pour voir si c'est un pari qui vaut vraiment le coup. Parce qu'au niveau du talent, oh là là.
Oui, après encore une fois, entendons-nous bien, on parle d'un joueur qui n'était même pas sûr de pouvoir rejouer au football. Donc, c'est déjà très bien qu'il ait pu revenir en 2021 et on espère que ça continuera et qu'il pourra avoir une carrière NFL décente. Malheureusement, même si ce n'est pas forcément la même chose, ça me rappelle beaucoup la situation de Ryan Broyles il y a une petite dizaine d'années du côté d'Oklahoma qui avait absolument tout pété et qui, pour une blessure, avait rien fait à l'échelon supérieur. Il y a aussi l'exemple Marcus Lattimore, bien entendu, l'ancien running back de South Carolina, qui avait été drafté à l'époque par les Niners. Donc voilà, c'est sûr qu'on attend forcément que, enfin, on espère en tout cas que ce genre de joueur réussisse à revenir vraiment un minimum en forme, parce qu'on imagine bien qu'on ne revient pas facilement de ce genre de problématique. Encore une fois, on parle d'une blessure à la colonne vertébrale, donc c'est quand même pas tout à fait anodin. T'as tout dit, notamment sur les impacts au niveau de l'attaque, enfin en tout cas sur l'impact négatif que l'attaque a eu dans son rendement en 2021. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir son utilisation. Je ne suis pas fan de la manière dont il a été utilisé. Beaucoup de situations un petit peu caricaturales et répétitives, notamment, ce qui faisait que les défenseurs pouvaient aussi un petit peu anticiper son utilisation. Il a quand même été beaucoup plus utilisé dans le slot. Alors, je ne vais pas le reprocher à Clemson, encore une fois, hein. Je ne vais pas leur reprocher éventuellement peut-être de minimiser les risques. Mais ça peut aussi trotter dans la tête des observateurs NFL qui vont se dire, bah, on a vu que c'était un énorme talent sur l'extérieur. Et là, ça veut peut-être dire que du coup, même si dans le slot, on n'est pas du tout à l'abri de prendre un choc, hein, au contraire, bien entendu, on voit des Nickelback qui tapent de plus en plus fort maintenant, entre autres. Mais oui, c'est quand même quelque chose à prendre en considération et ça interroge ne serait-ce que sur sa capacité à faire des différences sur l'extérieur, sur la vitesse qu'il aurait potentiellement conservé par rapport à sa période pré-blessure. C'est des points d'interrogation forcément à éclaircir s'il vient à se présenter pendant le processus draft, mais ça tu l'as bien dit tout à l'heure. Deuxième profil intrigant, là celui-là, il y a peut-être moins de chances selon moi qu'il se présente en 2022, mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité-là, surtout qu'il revient en tout cas en cette fin de saison du côté de Georgia et va peut-être jouer lors de la finale de conférence SEC prévue dans quelques jours contre Alabama. Dans quelques heures même, alors, vous nous écoutez. On va parler de George Pickens, mon petit Jean-Michel. Saison 2021 blanche, avec une blessure qui est intervenue donc, au cours de l'intersaison. Mais là encore, on a un profil extrêmement atypique, que ce soit d'un point de vue physique et athlétique.
Ouais, ben lui aussi, il a un petit peu tout pour réussir, hein. Mais voilà, c'est une énigme par rapport à sa blessure. Alors, est-ce qu'il va se présenter? Franchement, moi, je lui conseillerais que non, qu'il refasse une saison complète. En plus, il est quand même à Georgia, c'est un super programme, donc il y a des chances qu'il brille l'année prochaine. Donc, ça serait bien qu'il retourne à la fac. Mais bon, après, c'est son choix, c'est sa vie, on verra ce qu'il va décider de faire. Il vient à peine de revenir contre Georgia Tech, il a fait une réception, voilà, il reprend à peine le rythme. Donc, on verra. Et justement, ce soir contre Alabama, le choc des Titans, si jamais il brille, alors oui, c'est sûr, sa cote va remonter en flèche parce que il a vraiment ce qu'il faut, il a de la taille, il a du gabarit, il a des bonnes mains. C'est quelqu'un qui a un potentiel pour être un receveur du premier tour. Donc, du coup, oui, ce match va être très, très important pour lui et puis les matchs qui vont suivre puisque bon Georgia devrait être en playoff ensuite et à voir mais pour l'instant ça reste une énigme.
Ouais, j'ai pris ces stats de 2020, du coup, même si on rappelle que la saison était très particulière parce que pleinement touchée par la pandémie, c'était 36 réceptions, 513 yards et 6 touchdowns en 8 matchs dans une attaque principalement axée sur du jeu au sol, donc ça insiste quand même sur la capacité qu'il avait à faire des différences dans le domaine aérien. Mais voilà, c'est vraiment un joueur qui sait à peu près tout faire. Petit bémol là encore, je ne vais pas faire trop long parce que c'est pas sûr du tout qu'il s'inscrive. C'est le genre de receveur qui peut facilement sortir de son match. Je trouve qu'il a un petit côté, alors peut-être pas physiquement, même si s'il est quand même assez costaud, il a un petit côté Dez Bryant dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est un joueur pétri de talent, mais qu'on peut rapidement sortir d'une rencontre et qui peut être plus dans l'embrouille permanente avec son cornerback que vraiment dans le côté je vais réussir à performer. Je pense qu'on peut même comparer à Michael Thomas, par exemple, si on prend une période actuelle, même si c'est un peu moins marqué, je trouve, pour Thomas que ça pouvait l'être pour Bryant.
Ouais, c'est un petit peu un Marco Verratti du football US, quoi.
D'accord. C'était gratuit, ça, par contre.
Ouais, j'avoue, j'avoue.
Ah, voilà. On a fait le point sur les deux énigmes, on termine. Avec notre sleeper. Alors, tu m'as laissé généreusement le choisir, Jean-Michel, et j'espère au moins que tu es d'accord avec moi.
Oui, très bon.
Ouais, je vais parler en l'occurrence de Justin Hall, receveur de Ball State. En 2021, c'est 61 réceptions pour 606 yards et 5 touchdowns. Alors là, je vais le dire très clairement, c'est un sleeper avant tout parce que
pour moi, j'ai du mal à en faire plus qu'un slot receiver aujourd'hui, mais ça peut être un excellent receveur numéro 3. C'est une véritable pile électrique, un vrai danger, notamment sur les yards après réception. On l'a vu très dangereux, notamment sur les phases d'équipe spéciale et justement pour aller chercher des premières tentatives du côté de Ball State, hein, qui a fait une saison peut-être un peu moins clinquante que l'année dernière, mais son impact était déjà extrêmement notable dans l'attaque des Cardinals en 2020. Et voilà, encore une fois, je vais pas forcément être très original là-dessus. C'est un joueur qui drop assez peu de ballons, qui en termes de tracé reste relativement honnête, mais qui va vraiment être, je pense, un receveur numéro 3 à développer de manière assez intéressante. J'ai pris ce profil-là parce que pour moi, ce sera peut-être un... Allez, on va dire, vu la classe de receveur, peut-être un cinquième tour éventuellement avec lequel on peut se frotter les mains et qui pourra sortir quelques matchs assez solides.
Oui, je suis d'accord avec toi au niveau du cinquième tour parce que, tu vois, quand on parle d'un receveur numéro 3, peut-être les auditeurs imaginent, voilà, c'est un troisième receveur, etc. Mais moi, je le vois surtout comme une arme offensive, l'offensive weapon, comme on disait à une époque, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de mal en réception, mais aussi à la course. On le voit des fois, il court avec le ballon, il fait les deux. C'est un petit peu comme Ayana Smith qui joue à Texas A&M, c'est un peu comme on voit des fois des joueurs à NFL comme ça qui ont cette polyvalence. Ils peuvent faire les deux, ils peuvent contribuer dans le jeu de passe, dans le jeu de course. Il est très explosif, il est très difficile à rattraper parce qu'il a beaucoup de vitesse, une pointe de vitesse, mais il est également vif. Il y a une petite différence entre la vitesse et la vivacité, c'est-à-dire qu'il est capable d'attaquer la profondeur d'un coup avec donc la vitesse, mais également la vivacité dans les petits espaces. Hop, 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 il s'échappe des défenseurs à gauche, à droite, il change d'appui, etc. Il est quasiment insaisissable. Donc, c'est vraiment... Alors, gadget, ça pourrait paraître réducteur, mais ça l'est pas du tout, parce que c'est quelque chose qui te permet de faire beaucoup de choses différentes avec lui. C'est-à-dire que tu es un petit peu embêté dans ton plan de jeu, etc. Tu peux faire un jet sweep et hop, il déborde la défense d'un côté. Ensuite, tu vas feinter la défense parce que tu vas transmettre le QR comme si c'était un running back. Ensuite, il peut attaquer la profondeur. Ensuite, comme tu dis, il contribue aussi en équipe spéciale. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est une arme. Alors, c'est sûr, c'est pas le type de joueur que tu prends au premier tour, ni au deuxième tour non plus. Mais je veux dire, une fois que tu arrives le samedi de la draft, c'est-à-dire les tours de 4 à 7, ben oui, c'est quelqu'un de très précieux parce qu'il va t'apporter dans une attaque avec tout ce qu'il peut faire, toute cette polyvalence. C'est un petit peu un couteau suisse de l'attaque. Donc, ouais, c'est un super joueur, Justin Hall.
Très bien. Bon, ben voilà, en tout cas, après, je le répète encore une fois. Et franchement, je le répète, il a fallu vraiment qu'on fasse des cuts. Mais si vraiment il y a des... Vu la classe, vu la profondeur, on n'est clairement pas à l'abri d'avoir des top receveurs qui puissent éventuellement être récupérés aux alentours du 3e, 4e tour s'il venait à glisser. Et là, encore une fois, il y aurait possiblement d'autres sleepers. Mais voilà, là, c'est sans doute un joueur. Je ne m'avance pas trop si je dis que Justin Hall, dans les 3 premiers tours, ça me paraît encore difficilement envisageable, même si le processus draft n'est clairement pas encore démarré à l'heure où on se parle. Je te remercie encore, en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. A priori, on se retrouve la semaine prochaine.
C'est ça, exactement. Ouais.
Pour le nouveau podcast draft, on va parler linebacker. Ça va être un peu plus costaud, mais il y aura aussi une profondeur tout à fait intéressante à mettre à l'honneur.
Oh là là, oui. Oh oui. Soyez au rendez-vous samedi prochain parce que ça va déménager. Hein. Ouais.
Et moi, je vais pouvoir parler de mon petit chouchou et c'est formidable. Voilà. Et un joueur qui croise souvent George Pickens, a priori, à l'entraînement. Bon, merci encore une fois, Jean-Michel, d'avoir été avec moi. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Je rappelle que pour ceux qui veulent te suivre, pardon, sur Twitter, rappelle-moi, c'est hashtag Zappa13009.
Voilà, exactement, c'est voilà, ça.
C'est bien ça. Yellow Radio, ça, pour me suivre également sur les réseaux sociaux. Et puis, bah voilà, comme je le disais, toute l'actu de la NFL sur touchdownactu.com. Et vous retrouvez dans quelques jours le débrief, notamment du week-end de NFL à venir. Salut à tous, passez donc une très bonne semaine sur touchdownactu. Ciao.
Et bon samedi à tous.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kayla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.